C'est la question que pose par exemple l'Humanité. Qui était l'assassin de Samuel Paty? Comment un jeune de 18 ans peut-il se transformer en meurtrier? Quel rôle jouent les réseaux sociaux? Et comment réguler les contenus en ligne? C'est probablement l'une des questions les plus complexes en sciences sociales, celle du passage à l'acte. Pour tenter d'y répondre, je suis en votre compagnie. Gilles Kepel, bonjour. Vous êtes directeur de la chaire Moyen-Orient Méditerranée à l'École Normale Supérieure, professeur à Sciences Po. Vous avez notamment publié « Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient » aux éditions Gallimard. Tout d'abord, quelques mots sur ce jeune, ce que l'on en sait. Gilles Kepel, a-t-il le profil classique du terroriste, de ces gens qui passent à l'acte?
On ne sait pas encore grand-chose, on a quelques informations parcellaires. On sait qu'il est né en Russie, que ses parents ont obtenu le statut de réfugié politique comme Tchétchène. Vous savez que la Tchétchénie a été l'un des grands lieux du djihad en même temps que l'Afghanistan dans la deuxième moitié des années 90. Et que de ce fait, dans la mouvance islamiste mondiale, les Tchétchènes jouissent d'une aura extraordinaire. Beaucoup sont venus effectivement comme réfugiés en France. Rend d'autant plus complexe la perspective qu'ils puissent être rapatriés dans un pays qui est même sous l'égide de la Russie de Vladimir Poutine aujourd'hui. Et les informations qu'on a pour l'instant, c'est que il a depuis 6 mois environ apparemment été extrêmement actif sur le web avec des partages de vidéos et autres djihadistes, et que par ailleurs il aurait fréquenté à Toulouse, pour des raisons que j'ignore, à Toulouse, une salle de sport parmi ces nombreuses salles de sport tenues par les islamistes, où on ne se dévêt pas dans les vestiaires, où la mixité est strictement interdite, où on s'arrête pour l'heure de la prière, etc.
Mais on fait du sport ou en réalité
On fait des sports de combat notamment, oui. On s'entraîne d'une certaine manière à avoir son corps qui est fonctionnel et puis en même temps à être prêt à passer à l'action.
Mais est-ce que ce sont des lieux de prédication ou alors est-ce que ce sont des lieux qui provoquent ou instaurent une forme de sociabilité qui peut conduire à la prédication? Comment se passe ce type
prédication? Non, parce que la prédication, elle se fait dans les endroits spécialisés qui sont les lieux de culte, si vous voulez, enfin, ou les lieux de culte même informels, mais ça fait partie de cette espèce de nébuleuse qui a aujourd'hui maillé un certain nombre de quartiers populaires en France, les fameux territoires conquis de l'islamisme de Bernard Rougier, où vous avez à la fois la salle de prière, la salle de sport, un certain nombre de commerces dans lesquels on va halal, dans lesquels on va faire ses courses, etc., et qui la crèche tenue par les femmes voilées, donc qui crée une espèce de si vous voulez, pour parler d'un terme sociologique, d'habitus islamiste, de normes qui va rendre justement l'école entre guillemets de la République un lieu d'autant plus aberrant et qui fait que les élèves qui sont passés par cette socialisation vont se regrouper et s'insurger contre tout ce qui leur paraît ne pas aller dans leurs normes, si vous voulez. Alors, montrer des caricatures, par exemple, ça déclenche des interventions immédiatement. J'ai reçu depuis que j'ai publié un papier dans une tribune dans Le Monde à ce sujet, énormément de courriers d'enseignants que je ne connaissais pas et qui me décrivent cette ambiance à laquelle ils sont confrontés.
C'est-à-dire
que autrefois vous aviez, enfin autrefois dans un autrefois peut-être mythique, je ne sais pas, vous aviez le professeur avait la capacité en classe d'être celui qui disposait de savoir au singulier ou au pluriel, qui n'était pas a priori contesté par l'élève. Or là, ils anticipent beaucoup d'entre eux que tel ou tel sujet ne peut pas être abordé, sauf à déclencher, alors au pire et au plus exacerbé, ce qui s'est produit à Conflans-Sainte-Honorine, mais un chahut, des altercations, etc. Et dans le fameux pas de vague, entre guillemets, très critiqué aujourd'hui, qui semblait être la norme dans certains endroits, ils ont préféré leur tranquillité en se disant, après tout, on est mal payé, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez préoccupant parce que, si vous voulez, c'est cette espèce de d'islamisme à bas bruit. Et c'est ça qui crée ce que j'ai appelé dans ce papier, pardonnez-moi de me citer, un djihadisme d'atmosphère. Vous voyez, c'est-à-dire ça, les atmosphères du politique, pour reprendre une expression de Bruno Latour, sont en train de changer par ces réseaux de socialisation auxquels il faut bien sûr ajouter, et c'est ça qui est fondamental, l'autre réseau. Qui est celui du web. Mais alors... Et ça, c'est un enjeu énorme. J'entendais dans la revue de presse la démarche qui est menée aux États-Unis face aux GAFA, à Google et à autres, et que l'Union européenne mène aussi. On est là dans un phénomène très très surprenant qui est vraiment à la limite du droit. Si vous ou moi aujourd'hui dans la radio publique, mais fut-elle privée, entreprenons de diffamer quelqu'un, nous sommes justiciables des tribunaux, ainsi que Sandrine Trainer, les patrons de Radio France. Alors que sur le web, finalement, vous appellerez, je sais pas quoi, Guillaume 638 et moi, Gilles 411, et on peut écrire absolument ce qu'on veut, et créer des espèces de systèmes viraux qui vont conduire à votre incrimination, en fonction de vos orientations religieuses, sexuelles, je ne sais quoi, à une espèce de lynchage. Et ça, c'est la coïncidence entre ces deux phénomènes, pour ce qu'on sait aujourd'hui, hein, parce qu'apparemment maintenant on découvre qu'il y a eu des contacts plus importants entre les différents acteurs de ce processus, qui a conduit à ce drame qui est à la fois épouvantable, parce que ça ne s'est jamais produit à ce point, mais qui malheureusement est le révélateur. Qui met les points sur les i, si j'ose dire, voyez.
Mais alors, Gilles Kepel, auparavant, on avait l'impression qu'on luttait contre des organisations, qu'on luttait contre Daesh. Daesh envoyait des commandos. Bref, il y avait une dimension répertoriée, centralisée, en tout cas de l'origine des attaques. Si on a affaire à des individus qui se saisissent eux-mêmes, alors il reste... L'enquête, celle-ci n'en est qu'à ses débuts, mais que peut-on imaginer pour tenter de repérer ces jeunes, puisque, semble-t-il, ce terroriste avait été socialisé en France, il est venu à l'âge de 5 ans, bref, depuis 13 ans, il avait eu l'occasion de connaître le pays et de se faire un certain nombre de normes. Est-ce que, par exemple, le fait que celui-ci soit tchétchène est quelque chose d'important ?
Alors ça, je ne sais pas, à part ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le milieu tchétchène en France, dont je ne suis pas un spécialiste, hein, mais c'est quand même fait connaître par une immense solidarité. Alors, il ne s'agit pas d'incriminer un groupe, bien sûr, ethnique ou autre, mais par des éléments, par exemple, je connais bien la région niçoise, où, au fond, tout le monde souterrain du deal, qui était tenu généralement par des Tunisiens ou autres, est aujourd'hui complètement contrôlé par des réseaux tchétchènes très structurés et qui font régner l'ordre ou le désordre, si vous voulez. Hein. Et on a vu la fameuse affaire de Dijon que tout le monde a dans les mémoires. Mais ça, c'est une autre question. Mais surtout, par ailleurs, il y a cette espèce de d'aura tchétchène comme terre de djihad et ces interventions ahurissantes du président tchétchène qui donne des leçons à Emmanuel Macron, vous l'avez vu dans la presse, et qui se présente, alors que généralement, c'est un autocrate soutenu par le Kremlin, mais qui se pare des plumes de l'islamisme pour assurer son pouvoir, alors qu'il y a eu, bien sûr, une répression très forte de l'insurrection islamiste tchétchène et djihadiste tchétchène autrefois. Il organise des manifestations contre Charlie Hebdo, etc., qui rassemble beaucoup de gens, parce qu'il n'y a pas beaucoup de liberté là-bas. Mais Indépendamment de cette affaire tchétchène précisément, pour répondre à votre question, en réalité, il y a eu plusieurs phases du djihadisme. Je ne vais pas revenir à toute l'histoire, vous avez gentiment rappelé mon livre « Sortir du chaos » pour ceux que ça intéresse, mais vous avez une armée extrêmement centralisée, disons, qui est celui d'Al-Qaïda. Il y a des donneurs d'ordre qui envoient des gars à prendre le pilotage, puis sur les avions, etc. Mais qui est découplé du sol, si je puis dire. Hein. À la base, il y a personne. Il y a des gars qui sont dans les avions, mais ça n'a aucun... Ensuite, vous avez cette phase a échoué d'une certaine manière après le 11 septembre parce qu'elle n'a pas réussi à mobiliser les masses. Il n'y a pas eu, comme on dirait en anglais, de grassroots. Ensuite, vous avez la phase Daesh qui est, elle, beaucoup plus ductile. Qui s'inspire en partie d'un théoricien syrien qui a fait des études en France d'ailleurs, qui s'appelait, probablement mort, on ne sait pas où il est, Abu Musab al-Souri, qui explique que l'enjeu ce n'est pas de créer des organisations type léniniste, qu'on appelle en arabe tanzim, mais un nizam, un système, si vous voulez, qui va aboutir aujourd'hui à cette espèce d'atmosphère. Dans lesquels les individus sont liés de manière horizontale et non pas latérale. Et il dit, par exemple, il a vécu en France longtemps, en Europe, il y a des enclaves et il faut que des gens fassent des attaques, pas forcément commandées d'en haut. On peut attaquer avec un couteau, avec tout ce qu'on veut. Il faut déstabiliser la société et ça va créer des surréactions qui vont mobiliser l'ensemble des musulmans derrière nous, les djihadistes, et on va déclencher la guerre civile, etc.
J'ai presque envie de vous demander pourquoi. Dans quel but, donc, provoquer une guerre civile?
Oui, pour le triomphe de l'islam dans le monde.
C'est-à-dire qu'en fait...
L'idée, c'est l'islamisation de la planète. C'est ça, dans la logique des djihadistes, c'est ça. C'est-à-dire, selon eux, dans leur lecture des textes sacrés, l'islam a été révélé pour que la planète tout entière lui obéisse.
Si je vous dis cela, c'est parce que l'autre discours qui a souvent été entendu chez les terroristes est que ces attaques n'étaient que des attaques de défense ou de réponse par rapport à ce que l'Occident faisait en Irak ou en Israël.
Ou en Syrie surtout. Pour Daesh, c'était ça. Moi, j'étais souvent en prison, peut-être pas assez selon certains de mes collègues d'ailleurs, qui auraient voulu que j'y reste. Mais dans les débats avec les djihadistes en prison, les gars me disaient, mais de toute façon, qui est-ce qui tue le plus? C'est vous ou c'est nous? C'est vous, car vous avez bombardé les enfants innocents en Syrie, donc finalement la loi du talion justifie que. Mais ça, c'est la logique des djihadistes. Alors après, on peut l'entendre sociologiquement, mais
Je veux dire par là, c'est que le fait de provoquer une guerre civile en France ou dans d'autres lieux qui seraient peuplés d'infidèles est un but différent de celui de se venger de je ne sais quelle agression. Gilles Kepel.
C'est confondu, si vous voulez, parce que c'est une vision globale qui dit que c'est normal, les infidèles, les impies, les koufars veulent se défendre contre la progression inéluctable de la vérité et que donc on doit réagir. C'est ça que ça veut dire.
Mais ça veut dire que ce jeune homme, alors là où
je voudrais revenir sur la fin de votre question parce qu'elle est très importante et j'ai pas eu le temps d'y répondre. Vous me dites que faire, qu'est-ce qu'il en est, comment est-ce qu'on fonctionne par rapport à ça? Alors, on est à mon avis à une étape qui n'est plus Daesh. On est post-Daesh. Pourquoi? Parce que Daesh a eu quand même quelque chose qui lui a assuré finalement une capacité de frappe extraordinaire, qu'il avait cette espèce entre guillemets de califat voyou à cheval entre la Syrie et l'Irak, entre 2014 et la fin, c'est la chute du réduit de Barouz en 2019, mais surtout 2017, qui lui a permis d'organiser, pour le coup, effectivement, les attentats, le Bataclan en étant le plus spectaculaire et le plus documenté. Probablement les autres aussi, mais il manque des chaînons pour le prouver aujourd'hui. Là, on est dans une logique qui est nouvelle, qui est beaucoup plus compliquée à identifier, parce que comme vous l'avez justement noté tout à l'heure, les services de renseignement ou autres répertoriaient des organisations, comme ils faisaient à l'époque du communisme, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, etc. Là, on n'est plus dans une logique organisationnelle du tout, on est au bout du processus qu'avait promu Abu Musab al-Souri, qui va être un processus d'atmosphère qui mêle le virtuel et le réel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais surtout, il y a à la racine de tout ça, une conception de la religion qui est portée au paroxysme par une formule en arabe qui est un peu le motto des islamistes, des djihadistes en particulier, des salafistes et aussi des frères musulmans pour beaucoup d'entre eux, qui se dit en arabe « el wala wal bara'a ». Ça veut dire quoi ?« El wala », ça veut dire l'allégeance, exclusive à la doctrine dans sa dimension la plus rigide, la plus dogmatique, qui fait qu'il n'y a pas d'autre loi qui peut s'appliquer sur Terre que la charia dans son interprétation la plus littérale. Et « el bara'a », qui est le concept le plus important d'une certaine manière, c'est la rupture où, dans le patois salafiste aujourd'hui, francophone, c'est-à-dire se désavouer d'avec, expression bizarre. Oui, je me suis désavoué d'avec les koufars, c'est-à-dire je refuse tout contact avec ce qui n'est pas ce à quoi je fais allégeance. Et c'est ça qu'on pourrait appeler d'une certaine manière le séparatisme, qui est identifié et stigmatisé comme tel par le projet de loi à la suite du discours d'Emmanuel Macron aux Mureaux le 2 octobre, les Mureaux qui sont un lieu où il y avait le commissariat dont l'un des membres, Jean-Baptiste Salvin, a été poignardé de manière atroce avec sa jeune femme devant leur bébé à leur domicile de Magnanville, et ce qui a donné ensuite lieu à une fatwa prononçant la condamnation à mort d'un certain nombre de personnes dans votre serviteur. Et c'est quelque chose de très important, parce que cet esprit doctrinal de wala wal bara, c'est-à-dire la justification qu'il y a un séparatisme, c'est culturel, si vous voulez, on n'est pas dans la même culture, on n'a rien à faire avec eux. Ça va se traduire pourquoi à l'école, nous faisons allégeance à la culture qui est passée par les réseaux sociaux, par les fatwas du web, si vous voulez, par le cercle sportif islamiste, par etc. Et par la prédication à telle mosquée comme celle qui a été dissoute, semble-t-il, enfin fermée, semble-t-il. Voilà. Et après, quand on va dans le monde de l'école, c'est un monde qui est hostile et étranger, qui est perçu comme ennemi. C'est l'école des kofars, si vous voulez, et des infidèles. Et donc, le processus par lequel la République a intégré les populations originaires de partout dans le monde, vous et moi, si j'ose dire, est aujourd'hui mise sinon en échec, du moins mise en crise, parce que vous avez une population scolaire qui refuse ce processus même au nom de cette dogmatique, vous voyez. Et ça va créer, ça va passer de ce que Rougier appelle aussi l'islamisme à bas bruit, si vous voulez, au djihadisme, au passage à l'acte. Et donc c'est tout ce processus aujourd'hui qui nécessite une transformation législative. De même que après l'affaire du voile à Creil en 1989, il y a eu 15 ans d'atermoiement et de disputes juridiques, d'aller-retour au tribunal administratif, conseil d'État, de la part des proviseurs et autres directrices de collèges et de lycées qui passaient leur temps dans les prétoires au lieu de pouvoir s'occuper de pédagogie. Il a fallu qu'il y ait la commission Stasi et la loi sur les signes religieux à l'école du 15 mars 2004 pour que les collèges puissent fonctionner. De même, aujourd'hui, face à ce type de phénomène, il est nécessaire de reconstruire, de restructurer l'arsenal juridique. C'est justement l'objet de ce débat sur la loi à propos du séparatisme, ou comme on voudra l'appeler.
Gilles Kepel, on vous retrouve dans une dizaine de minutes. Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient, c'est aux éditions Gallimard. On va continuer de s'interroger sur les conditions du passage à l'acte, et vous serez rejoint par une historienne, notamment spécialiste des génocides, Annette Becker. Il est 8h sur France Culture. Et aujourd'hui, jour d'hommage national à Samuel Paty, le professeur assassiné par un terroriste islamiste vendredi dernier à Conflans-Sainte-Honorine. On tente d'évoquer les rouages du passage à l'acte, et c'est la raison pour laquelle je suis avec Gilles Kepel, directeur de la chaire Moyen-Orient-Méditerranée à l'École normale supérieure, professeur à Sciences Po. Vous avez notamment publié « Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient ». Et nous accueillons Annette Becker. Bonjour Annette Becker.
Bonjour.
Vous êtes historienne, professeure à l'université Paris-Nanterre et vous êtes spécialiste des génocides. Vous avez notamment publié « Messager du désastre », Raphaël Lemkin, Yann Karski et les génocides. Si je vous ai demandé de participer à ces matins de France Culture, Annette Becker, c'est parce que je me suis dit qu'il y avait dans ces comportements violents, dans cette question extrêmement mystérieuse du passage à l'acte, peut-être des parallèles historiques à faire. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que vous avez tout à fait raison. Et en réfléchissant à cela, je me suis dit que, en effet, je ne suis pas du tout comme Gilles Kepel, spécialiste de l'islamisme politique. Mais en regardant ce qui se passe, on voit très bien les nombreux points communs. Et le point commun du passage à l'acte, c'est une haine. Et une haine, je dirais pratiquement apocalyptique, c'est-à-dire qui va toujours avec « c'est eux ou nous ». Et c'est quelque chose que Gilles Kepel a dit tout à l'heure et qui est très, très visible dans cette espèce de retranchement de mm-hmm. ceux qui croient qui ont la vérité. Mm-hmm. Et cette vérité pourrait les amener à avoir des discussions, mais ce n'est pas possible parce que ils veulent absolument détruire l'autre, et c'est cette volonté de destruction qui fait extrêmement, extrêmement peur. Je vais faire une grosse, je vais exagérer un peu en citant une de Charlie Hebdo, celle de la semaine dernière, due à Coco. Séparatisme, il est encore temps d'agir. Et vous avez le président Macron, tout petit, essayant de couper quelques poils dans une barbe gigantesque d'islamiste. Et puis celle d'aujourd'hui, toujours due à RIT, cette fois, à qui le tour, où on voit n'importe qui dans la société française, du postier au professeur, bien sûr, au juge, qui va être maintenant ciblé. Et c'est ce que les historiens des génocides, les historiens des violences appellent la réversibilité meurtrière des liens qui font société. Alors, on peut s'attaquer à toute la société qui n'est pas soi, et c'est mm-hmm. ce que font les islamistes. On peut aussi cibler son groupe. Et la cible, je crois, ici, existe en même temps. Mmh. Et il ne faut pas oublier qu'il y a d'abord eu une école de ciblés avant le crime contre Samuel Paty et les professeurs en général. Et je suis particulièrement émue parce que je suis un professeur d'histoire. Mais il y a eu l'école de Toulouse. Il y a eu un enseignant, Jonathan Sander, qui a été tué, et des enfants, dont son enfant. Donc ce n'est pas la première fois que l'école est ciblée. Mmh. Mais c'est la première fois que c'est une école publique. On avait à Toulouse une école juive. Et donc on a dans ce système meurtrier, parce qu'il est meurtrier, il faut appeler les choses par leur nom. On parle de barbares, on parle de monstres, c'est des assassins, tout simplement. Et ces assassinats ont été, quand ils sont ciblés contre les juifs dans la société française, il me semble qu'il y a un peu moins d'émoi. Alors il faut se demander pourquoi. Et je pense que l'obscurantisme de ces assassins est dans un cadre mental. Et c'est ça que font les historiens, c'est se discuter ce cadre mental, essayer de le comprendre, de le percer. Je prendrai un exemple historique terrible, mais qui me semble beaucoup ressembler. C'est celui du discours de Himmler à Poznan en 1942, au moment où on passe à un nouveau niveau dans l'extermination des Juifs, dans ce qu'on appellera par la suite le génocide, puis en France, la Shoah. Eh bien, Himmler doit encourager ses troupes, parce que certaines des troupes, eh bien, trouvent que c'est pas facile de tuer tant de gens à la fois. Et Himmler leur dit, attention, c'est nous ou eux. Et si on ne tue pas aussi les femmes et les enfants, eh bien, ils reviendront se venger. Vous voyez cette espèce de logique qui met à bas tout le sentiment d'humanité. Et si on appelle cela un crime contre l'humanité, ce n'est pas le hasard, évidemment, tout sentiment d'humanité, parce que ce que pense le groupe en question, eh bien, va donner sa survie. Et si on ne tue pas la cible en face, quelle que soit cette cible, eh bien, on va finalement être abattu soi-même. Et c'est pour cela que ce côté meurtrier fait extrêmement, extrêmement peur. Et je pense que il est largement temps qu'on essaye d'y mettre fin.
Ben alors, justement, Gilles Kepel, sur les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement et pour tenter de comprendre justement les rouages du passage à l'acte, lorsqu'il s'agit par exemple de fermer la mosquée de Pantin, et de dissoudre cette association Cheikh Yassine, peut-être allez-vous nous dire quelques mots sur cette association, Gilles Kepel. Quel est le lien de cause à effet? Est-ce que ce type de discours a aujourd'hui une efficacité sur ces jeunes gens qui passent à l'acte, et donc les supprimer pourrait endiguer quelques-uns de ces actes meurtriers? Est-ce que c'est uniquement une question d'atmosphère? Bref, votre sentiment à ce sujet?
Je voudrais revenir en un mot sur quelques-uns des points qu'a soulevé Annette Becker avant, qui sont très importants. Il y a bien sûr la destruction de l'autre, ce qu'elle a appelé très justement la réversibilité des signes, mais il y a aussi l'épuration du groupe. Et les attentats de Toulouse et Montauban de 2012, de Mohamed Merah, qui sont le début de cette affaire et qui ont été totalement incompris à l'époque. Le patron de la DGS, enfin, du service de renseignement intérieur, qui avait un autre nom à l'époque, continuant à seriner que c'est un loup solitaire, alors qu'on avait parfaitement identifié quel était son mode de fonctionnement, enfin, c'était n'importe quoi, a sélectionné deux types de personnes. Donc, les enfants juifs de l'école, comme l'a rappelé, et leur professeur, comme l'a rappelé Annette Becker, un symbole absolu de l'autre et du mal, etc., et également les militaires supposés musulmans de faciès, qui étaient des traîtres au groupe. Alors il y avait des Guadeloupéens qui n'étaient pas du tout musulmans, mais ils étaient bruns de peau, et des traîtres au groupe qu'il fallait absolument éliminer, c'est-à-dire non seulement on tue l'autre, mais on purifie le groupe fantasmé auquel on appartient. Et c'est la même chose que font en fait les djihadistes d'aujourd'hui. Ils ont fait en Syrie, par exemple, où vous aviez l'extermination des tièdes, des chiites ensuite, et puis des occidentaux éventuellement. Alors, pour ce qui est de votre question plus précisément, je ne peux pas me prononcer sur l'opportunité ou non de dissoudre telle organisation ou de fermer telle mosquée. Ça, c'est du ressort de la justice. Mais ce qui me semble important, c'est de bien comprendre que ce qui s'est produit cette fois-ci, c'est une étape nouvelle et plus préoccupante encore, et en même temps plus révélatrice, parce que d'habitude on reçoit un attentat ex poste, vous voyez, c'est-à-dire que par exemple les tours jumelles, le Bataclan, il y a l'attentat qui se produit et ensuite on n'a rien vu venir avant, et l'enquête doit remonter, une espèce de mouvement ascendant pour retrouver les connexions. Là, c'est très différent. Là, on a d'abord ce père d'élèves qui sur lequel l'enquête révélera un certain nombre de choses. Bon, c'est quelqu'un qui appartient quand même à cette mouvance islamiste très active. Sa sœur ou sa demi-sœur est partie rejoindre Daesh en Syrie. Elle est apparemment dans un camp des Kurdes aujourd'hui dans le nord-est syrien. Il a lui-même agité ciel et terre pour la faire revenir en France à titre humanitaire. Bon, un personnage qui travaille sur ces réseaux connaissait bien parce qu'il était ami avec à peu près toutes les stars de cette islamosphère et djihadosphère française sur le web. Donc, qui mène cette offensive? Puis, qui est relayé par un agitateur spécialisé, le sexagénaire Sifraoui, que tout le monde connaît depuis longtemps. Toujours très habile. Les gens de mon genre, disons.
Son discours, de Sifraoui, il faut rappeler quel est le discours de cet homme, quel niveau dans l'espace public, d'antisémitisme. Vraiment un discours tout à fait...
Ah, c'était un dosage assez élevé, effectivement. Mais, si vous voulez, c'est quelqu'un qui, justement, jouait, alors là, ça semble s'être arrêté maintenant, mais jouait à merveille du double registre. Il a toujours été très attentif à ne pas enfreindre les lois, si vous voulez. Il est allé dans la provocation, mais il est allé avec Dieudonné, il a fait ce que vous voulez, mais rien qui permette...
Parce que ça ne trompait personne.
Rien qui permette à un juge de l'emprisonner, si vous voulez. Et ensuite, vous avez la fin du processus qui est la décapitation, ce truc absolument monstrueux. C'est ça qui est nouveau. Alors du coup, qu'est-ce que ça signifie dans cette opération, pour répondre à votre question, de dissoudre l'association, enfin le groupement de fête, que Emmanuel Macron a appelé le groupement de fête chez Yassine, qui n'est pas une association de 1901, qu'est-ce que ça signifie de fermer pour 6 mois telle mosquée, celle de Pantin? Ça signifie quoi? Ça signifie que les autorités souhaitent viser des relais, si vous voulez, qui font le lien entre le monde du web, la décision individuelle, et puis l'assassinat. Et ça, c'est quelque chose qui s'inscrit précisément dans la réflexion sur la loi, ou sur le projet de loi, sur le séparatisme islamiste, ou je ne sais comment il va être appelé. Et moi, il me semble que ce débat sur la loi doit être un élément civique extrêmement important, si vous voulez, parce que on a entendu tout à l'heure votre collègue nous parler des débats à l'Assemblée nationale, de la gauche et de la droite. Bon, d'abord, il est tout à fait normal que le débat, voire les oppositions virulentes à l'intérieur d'une société, s'exprime dans le cadre de l'Assemblée. C'est à ça que ça sert. À l'Assemblée, on se dispute, on n'est pas d'accord, on exprime ses positions, on essaye de l'emporter. Mais une fois que la majorité s'est prononcée, c'est la loi et chacun s'y plie. Mais en même temps, ce qui est très important, c'est d'arriver à comprendre comment on peut, dans un projet comme celui-là, qui est d'ampleur nationale véritable, qui pose des problèmes de survie de notre société telle que nous souhaitons qu'elle fonctionne, il peut y avoir un phénomène, disons, de catharsis, si vous voulez. Et je crois en particulier qu'il est intéressant de voir ce qui s'est produit. Monsieur Saïs, si ça veut dire.
Frédéric Saïs.
A souligné les ambiguïtés de Jean-Luc Mélenchon ou de certains à gauche qui étaient allés à la manifestation appelée par le comité contre l'islamophobie en France, lui encore, est donc dans le collimateur, disons, on ne sait pas ce qui va lui arriver, c'est dissous dans la semaine prochaine. Et on voit bien que là, vous avez quelque chose qui pose des problèmes, parce que ces gens qui ont soutenu le CCIF, en même temps, leur base sociale et leur relais culturel, c'est typiquement dans des enseignants de collège, etc., qui se trouvent être la victime par excellence
Là, en l'occurrence, du terroriste.
Oui, ça, là, il y a quelque chose qui est très important. Alors, je crois que ça, il y a toute une éducation, il y a un processus véritablement éducatif à mener dans l'élaboration de ce projet de loi. Moi, je souhaite que le président de la République et le Premier ministre ouvrent assez largement le débat sur cette loi, parce que c'est une loi qui devrait, à mon sens, être soutenue de manière très ample par l'ensemble de notre société et faire un consensus maximal. On a parlé, je m'arrête là, de la loi 1904 sur les signes ostentatoires. Bon, moi, j'étais à la commission Stasi, donc je faisais partie de ceux qui ont favorisé cette loi. Bien sûr, je suis favorable, mais elle a été évidemment très contestée. Elle a été très mal expliquée. Et là, par exemple, moi, j'ai émis le souhait que le discours du président au Mureau soit traduit en anglais, soit traduit en arabe, parce qu'on a eu des feedbacks du côté arabe qui ont été assez négatifs pour l'instant. Et parce que tout ça n'a pas été expliqué. Et j'ai l'impression qu'il y a un travail de pédagogie à faire et que ce défi est tel pour notre société qu'il ne faut pas qu'on se rate, vous voyez.
La loi de 2004 que vous évoquiez, Gilles Kepel. Annette Becker, vous qui êtes une historienne, notamment des génocides et des crimes de masse, je vais faire quelque chose qu'il ne faut pas faire, faire des parallèles historiques. Là, avec ce terroriste, on a affaire à un homme extrêmement jeune. Et lorsqu'on lit un certain nombre de biographies de personnes qui ont eu un rôle, parfois d'ailleurs de premier plan, dans le génocide des Juifs, on est frappé par leur jeunesse et par le caractère très anomique de ces individus, c'est-à-dire des gens qui cherchaient, alors qui assez souvent cherchaient à réussir, qui étaient prêts éventuellement à tout pour réussir. Est-ce qu'il serait possible de faire un parallèle ou de tirer des enseignements?
Je crois qu'il ne faut pas exagérer le profil anonyme des nazis. Au contraire, les spécialistes actuels montrent combien d'entre eux étaient des Allemands ordinaires. Des Allemands ordinaires pour beaucoup ayant fait des études de droit. Et au contraire, le juridisme...
Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je voulais dire par anomique, c'était le fait qu'il y avait des orientations. Alors, je vous prends un exemple précis. Lorsque vous relisez Eichmann à Jérusalem d'Arendt, Arendt vous explique qu'Eichmann, au moment de s'impliquer dans le parti nazi, parce que celui-ci est... en quelque sorte introduit par Kaltenbrunner, qui a été un grand SS, eh bien Eichmann hésitait entre le parti nazi et la franc-maçonnerie, ce qui est pour le moins le signe d'une certaine désorientation mentale. Est-ce que ce type de manque de boussole, voire d'absence complète de boussole, avec des jeunes qui, là aussi oscillent entre des parallèles complètement étonnants, est-ce que ça peut être aussi une piste ou, je ne sais pas, un parallèle à suivre?
Oh ben je suis obligée de vous contredire sur Eichmann de nouveau. Les travaux depuis le fameux article d'Anna Arendt ont montré qu'il n'était pas si déboussolé que ça, Eichmann. Et donc, je crois que non. Je crois que il faut réfléchir, je dirais, avant le passage à l'acte, aux violences symboliques, aux violences verbales, à la haine. Et on trouve tout ça chez nos jeunes djihadistes et chez les vieux aussi. Vous parliez tout à l'heure de ces gens qui sont doubles et qui ont l'air de respecter vaguement la légalité, mais qui sont en fait pleins de haine. Il faut analyser ces discours avant d'analyser les passages à l'acte. Et on voit quelque chose qu'on trouve toujours et qu'on trouve aussi chez Eichmann ou chez Krüger, une animalisation celui qu'on prend pour cible ou une réification. Et on le voit tout le temps. Mais je veux dire, c'est quelque chose qu'on ne prend pas assez au sérieux. De voir qu'une espèce de mentalité de haine qui passe par la langue et qui ensuite va jusqu'à l'assassinat. Je ne vois pas en quoi il est plus monstrueux de décapiter mon collègue que de tirer à bout portant sur un enfant dans une école. Et pourquoi on ne prend pas les choses en considération? Je voudrais dire quelque chose qui est une citation de Kessler. Kessler qui, en pleine Seconde Guerre mondiale, découvre l'ampleur de l'extermination des Juifs. Pas en 1944, pas en 1945, en 1942. Et il dit cela, les statistiques ne saignent pas, c'est le détail qui compte.
Et oui,
et là, je voudrais qu'on arrête.
C'est une très belle citation. C'est effectivement une très belle citation. Gilles Kepel, aujourd'hui, donc, un certain nombre de mesures sont prises et dictées sur les réseaux sociaux, parce que là aussi, il est à la fois compliqué de légiférer et on voit bien que tout part de là, sans les réseaux sociaux. Il n'y aurait ni la mouvance islamiste, ni même d'ailleurs une très grande partie de la séquence qu'on connaît, hélas, depuis les meurtres de Mohamed Merah.
Oui, enfin, c'est un vecteur. Hein. Ça n'est pas là que les choses sont pensées. C'est là qu'elles sont diffusées au sens propre et avec, en passant à travers d'autres modes de transmission du savoir. Combien parmi nous, ici, dans cette radio hyper intellectuelle, lisons encore véritablement des livres par rapport au temps qu'on passe à regarder des informations, y compris pour écrire des livres sur le téléphone, hein. N'en parlons pas pour les gens qui n'ont plus accès aux livres, qui sont en voie de disparition. Mais c'est un problème qui dépasse complètement la mouvance islamiste. Ça fait partie de l'horreur du monde contemporain avec la diffusion des virus, etc. Et là, je vois quand même qu'il y a une prise de conscience, puisque la mise en cause des GAFA aujourd'hui, aussi bien par le gouvernement des États-Unis que par les instances de l'Union européenne, me semble quand même quelque chose de très important. Il y a eu, vous avez vu toute la polémique autour de Mark Zuckerberg, par exemple, qui explique, oui, certes, moi je suis juif, mais je ne me sens pas d'interdire des gens qui critiquent l'existence de l'Holocauste, parce que après tout, c'est parti de liberté d'expression. Et après, vous avez des gens qui
répondent. C'est une conception américaine de la liberté d'expression.
Alors, il y a ça, il y a d'autres qui vont plus loin et qui disent, parce que l'essentiel, c'est que Facebook génère du profit. Et donc, si vous voulez, vous avez... je ne suis pas spécialiste de ce débat, mais enfin, je vous dis ce que je lis dans le New York Times. Et donc, je crois que ça, c'est quand même un véritable enjeu. Et les citoyens, en tant qu'ils sont, qu'ils élisent leurs responsables, doivent certainement s'emparer de cet enjeu. S'il n'y a pas de capacité à réguler le mode d'expression sur les réseaux sociaux, alors on est dans une sorte de jungle. Enfin, on revient à une société hobbesienne, si vous voulez.
Oui, oui, mais alors justement, parce que vous dites que c'est un vecteur, et effectivement, c'en est un. Mais le fait que les réseaux sociaux aient permis de recruter des jeunes pour faire le djihad, le fait que les réseaux sociaux aient également permis de focaliser sur des victimes, puisque c'est exactement ce qui s'est passé avec Samuel Paty. C'est-à-dire, on voit bien que l'outil n'est pas neutre, que ça n'est pas seulement quelque chose qui...
Il n'est pas neutre. C'est pour ça que sa régulation me semble un enjeu extrêmement important, mais ça ne suffit pas, puisque l'élaboration de la pensée qui se constitue dans la haine de l'autre et la rupture même, si vous voulez, le séparatisme, la rupture salafiste, ce qu'on appelle al-bara en arabe, le fait de vous désigner, vous ou moi, comme soit un kafir si on n'est pas musulman d'origine, soit un apostat, un murtad si on est musulman d'origine mais qu'on n'a fait pas cette allégeance, ou un hérétique si on est chiite, etc. Et pour tout ça, c'est la mort, c'est la solution. Un peu dans la logique qui était celle que reconstituait Annette Becker dans les modes de fonctionnement du nazisme. Hein, et ce sont des phénomènes dans lesquels il y a une certaine congruence, indéniablement. Donc ça se produit à travers la doctrine, à travers des modes d'endoctrinement qui ne passent pas uniquement par les réseaux sociaux, parce que vous avez quand même des groupes d'appartenance réels qui sont importants et on ignore justement, c'est très important de savoir quel a été l'itinéraire de ce jeune Tchétchène. Il a fréquenté, on le disait au début de notre dialogue ce matin, il a fréquenté un certain nombre de salles de sport identifiées comme des lieux de socialisation islamiste, hein, vous voyez, et où le corps lui-même, la question qui se pose aussi, elle est macabre, pardonnez-moi de la poser ainsi, mais c'est de savoir comment est-ce qu'il a appris à décapiter. Est-ce qu'il a simplement regardé des horreurs de Daesh qui tout le dark web en est plein? Ou bien alors, moi, les gens que je connais un peu qui se spécialisent, non pas là-dedans, enfin qui suivent ces questions-là, sont très ambigus là, sur leur réponse parce que ça nécessite un apprentissage. C'est-à-dire, on ne suffit pas de regarder sur les réseaux sociaux. Il faut que quelqu'un vous apprenne à le faire.
Parce que là aussi, ça fait penser à ce qui avait été dit sur la Première Guerre mondiale, où on parlait par exemple d'une brutalisation. C'était l'historien Georges Mossé qui en parlait. La brutalisation, notamment d'ailleurs par les gymnasiums, c'est-à-dire les sociétés de gymnastique allemandes de l'époque. Est-ce que vous pensez, Gilles Kepel, qu'il y aurait peut-être là aussi un parallèle à faire? On ne sait pas ce qu'on fait dans ces salles de sport, mais...
Oui, le sport a toujours été un vecteur du nationalisme. Les Slaves, par exemple, avaient les sociétés de gymnastique, des Sokol, qui étaient les vecteurs du nationalisme anti-austro-hongrois, par exemple. Mais effectivement, si vous voulez, toutes les sociétés totalitaires poussent à l'extrême le mens sana in corpore sano. Il faut qu'il y ait un corps qui abandonne ses vices, sa débauche et sa faiblesse pour être mis au service du projet. Bon, on a le stade de Nuremberg en étant le symbole par excellence, hein, pour continuer sur la lancée d'Alain Becker. Mais alors, on a effectivement ça. C'est très important parce que c'est aussi une manière de construire sa représentation de soi, sa force, sa capacité, ses capacités d'action.
Merci beaucoup Gilles Kepel. Je rappelle que vous êtes directeur de la chaire de Moyen-Orient Méditerranée à l'École Normale Supérieure. Vous avez notamment publié « Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient ». Et merci beaucoup Annette Becker, « Les messagers du désastre », Raphaël Lemkin, Yann Karski et « Les génocides », votre livre publié aux éditions Fayard.